Sophie. Comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plus de 8,5% des adultes de la planète sont diabétiques. Cette maladie chronique, dans 9 cas sur 10, est fortement liée au mode de vie, concentration excessive de glucose dans le sang, qui menace l'ensemble du métabolisme. Un déséquilibre qu'il faut traiter en associant à la prise en charge médicamenteuse des changements au quotidien en termes d'hygiène de vie. Équilibrer son alimentation, bouger, avoir une activité physique régulière et si besoin, perdre du poids et arrêter de fumer. L'un ne va pas sans l'autre pour rétablir sa glycémie à un niveau normal, la surveiller de façon régulière, continue, bien soigner, contrôler sa tension, son cholestérol, rester vigilant aussi face aux autres maladies associées ou provoquées par le diabète, atteinte cardiovasculaire, rénale, oculaire, les neuropathies qui peuvent impliquer des risques de surinfection au niveau des pieds par perte de sensibilité. Maladie métabolique, maladie chronique, si vous avez des questions sur le diabète, témoignages à apporter, appelez-nous au 33 84 22 75 75 ou laissez-nous un message sur notre page Facebook. Maladie chronique non transmissible. On parle du diabète aujourd'hui dans Priorité Santé avec vous, docteur Dominique Huette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de diabétologie endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Docteur Huette, vous enseignez à l'Université Paris-Descartes. Vous faites partie du conseil d'administration de l'association CAICEDRA, ONG qui travaille au Sénégal oriental. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Burkina Faso pour retrouver le professeur Joseph Drabo, diabétologue, chef du service de médecine interne du CHU Yelgado Droueda-Ogo de Ouagadougou. Des images, des vidéos, des créations artistiques pour parler de la santé mentale. Après avoir été récompensé en décembre, eh bien cette organisation, l'association Art Convergence, prépare de nouveaux événements avec comme préoccupation favoriser la création artistique des personnes qui souffrent de pathologies psychiques. On va en parler. Ce sera en fin d'émission avec Laurence Dupin, présidente de cette association.
Priorité santé sur RFI.
Pour commencer, docteur Dominique Huette, le diabète en chiffres, hein, certains parlent carrément d'épidémie, même si c'est une maladie non transmissible. 8,5% des adultes concernés, là ce sont les chiffres de l'OMS de 2014. Si on regarde aujourd'hui, 425 millions de personnes, c'est absolument colossal.
Alors bien entendu, c'est pourquoi on emploie le terme épidémie, même si, comme vous l'avez bien dit, c'est non transmissible. Mais on est en face d'un réel problème de santé publique mondial, puisque depuis 30 ans, on ne fait que constater une augmentation considérable des chiffres. Il n'y a pas d'inflexion de cette pathologie, puisqu'en 2040, on va parler de 630 millions, c'est-à-dire une augmentation de plus de 48% du nombre de diabètes. Et si on prend les chiffres de l'Afrique, qui nous concernent aussi, on voit que c'est le pays où la plus grande augmentation aura lieu, puisqu'on va passer de 16 millions actuellement à plus de 41 millions en 2045, soit plus de 150% d'augmentation. Et le chiffre qui est le plus interrogatif, c'est 80% des diabétiques aujourd'hui en Afrique ne sont pas diagnostiqués par les difficultés de diagnostic, d'accès au centre, au prélèvement, alors qu'ils font un prélèvement très simple. Mais cela conduit donc à 80% de gens qui vont évoluer pendant 10 ans, 15 ans. Parce que une des problématiques de cette maladie, c'est qu'elle est très longtemps silencieuse et que bien souvent on va la découvrir à l'occasion d'une complication. Vous avez rappelé toutes les difficultés que peuvent conduire cet excès de sucre, que ce soit au niveau des vaisseaux, des reins, des nerfs, des yeux.
Alors justement, comme on est là aussi pour rendre service, pour ne pas arriver à ces complications, pour être dépisté, pour être diagnostiqué, docteur Dominique Huette, quand on est chez soi, qu'on a un petit peu un malaise, ce sont quoi ces premiers signes qui font peut-être penser « je devrais aller voir mon médecin parce que j'ai peut-être du diabète ?»
Alors, c'est difficile, puisque, comme je vous l'ai dit, elle est extraordinairement silencieuse pendant très longtemps. Hein, le diagnostic, il se pose sur une prise de sang. Je vous rappelle que le chiffre seuil est 1,26 g par litre de taux de sucre.
Ça veut dire que si on a déjà des signes, c'est qu'on est déjà avancé.
Très élevé. Pour avoir des signes, il faut avoir des niveaux de glycémie, donc de taux de sucre, supérieurs à 2 g, 2,50 g. Donc on est déjà...
presque au double de la limite tolérée.
Exactement. Et dans ces cas-là, ben, les signes sont classiques. C'est une soif, c'est une... on se lève la nuit pour uriner. Mais encore une fois, il faut avoir des taux de sucre très élevé pour voir ces signes.
Alors, dans le diabète est impliqué un organe sur lequel, finalement, le grand public a assez peu d'informations, c'est le pancréas. Souvent, on sait qu'il est là quand il y a un problème avec lui, mais avant ça, on ne s'en soucie guère.
Alors, vous avez raison. En plus, c'est un organe qui est très profond, donc qui ne va pas faire parler de lui. Par exemple, comme l'intestin, qui, pour des pathologies bénignes, va être très souvent sollicité au niveau des symptômes. Le pancréas, c'est une glande qui va essentiellement avoir une fonction, en ce qui nous concerne, de fabrication de l'insuline. L'insuline allant être l'hormone qui va réguler l'entrée du sucre dans les cellules. Et si on manque un peu d'insuline, le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules et va s'accumuler dans le sang. Et à ce moment-là, va entraîner au long cours des dégâts.
Docteur Huette, on va prendre dans quelques instants nos auditeurs en ligne. Une dernière petite chose avant de leur donner la parole justement, c'est cette distinction importante entre diabète de type 1 et diabète de type 2. La plupart des personnes à qui l'on va parler tout à l'heure, hein, qui nous appellent, sont concernées par le diabète de type 2.
Alors c'est tout à fait normal puisque on compte à environ 90% de diabétiques de type 2 et seulement... on va dire 10% de diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie qui touche les enfants, qui va être une maladie totalement différente, une maladie auto-immunitaire qui va détruire totalement la fabrication des cellules pancréatiques. Et donc, du jour au lendemain, ces enfants, entre 0 et 15 ans généralement, vont devenir diabétiques avec des chiffres très importants. Et le seul traitement pour éviter la mort, c'est l'insuline.
Parce que pour des enfants, c'est excessivement dangereux.
Bien sûr, et qu'on ne peut pas vivre sans insuline. Le diabétique de type 2, c'est une autre anomalie où on a un petit défaut de fabrication d'insuline, mais c'est essentiellement ensuite les facteurs exogènes comme la prise de poids, la sédentarité, qui vont entraîner nécessairement des anomalies de... marche de notre insuline au niveau du corps.
Un dérèglement. Tout de suite, on prend ces auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Le Burkina Faso pour commencer. Ouagadougou, où l'on retrouve Salimata. Bonjour Salimata.
Bonjour madame.
On vous écoute, le docteur Dominique Huette vous écoute.
Ok, bonjour docteur. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une personne qui fait une intolérance au sucre est forcément diabétique ou est exposée au diabète?
Alors, vous posez une question qui est très importante, mais qui nécessite déjà une petite clarification. Qu'est-ce qu'on appelle intolérant au sucre? Pour nous, diabétologues, l'intolérance au sucre, c'est ce qu'on appelait auparavant le pré-diabète. Et il est très bien déterminé par le niveau du taux de sucre dans une prise de sang. Je vous rappelle que quand on fait une prise de sang, une glycémie dite normale se comprend entre 0,80 g par litre et 1,10 g. Et le diabète apparaît au niveau de 1,26 g. Alors vous voyez qu'il y a une zone intermédiaire entre 1,10 g et 1,26 g que nous appelons intolérance au sucre ou prédiabète. Et là, il n'y a pas de fatalité. Moi, je suis diabétologue parce que je crois quand même qu'on peut tout à fait résoudre beaucoup de problèmes. Et cette intolérance au sucre, si vous respectez des règles simples d'hygiène, c'est-à-dire un peu d'activité physique, ne pas prendre du poids, eh bien, on s'aperçoit que le diabète n'arrive pas dans les 5 à 10 ans, comme cela pourrait survenir si l'on prenait du poids, si l'on devenait très sédentaire.
C'est là où on doit être vraiment très vigilant, on prend des bonnes habitudes et on évite justement d'aller vers quelque chose de chronique.
Tout à fait.
Voilà Salimata pour cette réponse. Vous avez une question supplémentaire ou c'est assez complet ?
C'est assez complet, c'est bon.
Excellente journée à vous à Ouagadougou. On part tout de suite pour le tchat pour Djamena, où on retrouve Mahamat. Bonjour Mahamat.
Bonjour.
On vous écoute, le docteur Huet vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour.
J'aimerais parler de l'insuline qui se vend en Afrique, et en particulier au Tchad. Moi, je suis insulino-dépendant depuis presque 3 ans. Avant, j'utilisais de l'insuline vendue au Tchad. Donc chaque jour, à partir de 10 heures, j'ai une hypoglycémie. Mais quand un oncle m'avait offert de l'insuline qu'il a payé en France, je n'ai plus cette hypoglycémie et je me sens en parfaite santé. Alors, j'aimerais savoir quel genre d'insuline qu'on vend au Tchad et pourquoi cette réaction et quels sont les risques qu'on encourt.
Mahamat, avant de donner la parole au docteur Huet, moi j'ai une question. Là, vous êtes retourné à ce que vous appelleriez l'insuline tchadienne ou vous continuez avec de l'insuline importée?
Non, celle d'importer sur la France.
Vous continuez avec l'insuline importée?
Jean Esquilo.
Docteur Dominique Huet, je vous donne la parole.
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, en particulier pour moi qui ne connais pas totalement les particularités d'approvisionnement au Tchad. Il est clair que lorsqu'on a affaire à des officines, on a des produits qui sont de qualité. Alors, pour essayer de répondre à la question, on peut imaginer peut-être que l'on vous a donné d'autres types d'insuline qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Exemple, si vous faites ou si vous faisiez régulièrement des hypoglycémies en fin de matinée, peut-être que vous aviez une insuline qui comprenait un mélange d'une insuline intermédiaire et une insuline rapide à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle Mixtar 30 ou Novomix 30, et qui donnait des hypoglycémies en fin de matinée, de la même façon que si vous étiez à Paris avec cette insuline, et que on vous a rapporté une autre insuline qui est peut-être plus douce et qui n'apporte pas ces risques d'hypoglycémie vers 10h, 11h du matin.
Ça veut dire peut-être que Mahamat pourrait trouver cette même qualité au Tchad, cette autre insuline.
Sûrement.
Une autre question, Mahamat, qui est très importante. L'insuline que vous procurez au Tchad, vous la procurez où ?
À l'hôpital.
À l'hôpital. Donc c'est de bonne source. Ça, c'est déjà un point très important.
Elle est subventionnée, quoi, disons.
Tout à fait. Donc ça, c'est une information très importante. Donc peut-être simplement le médecin que vous allez voir, si vous lui amenez l'emballage de cette insuline importée de France, il pourra déterminer si c'est un produit peut-être différent qui vous correspond davantage et que vous pourriez acquérir directement dans la pharmacie de l'hôpital chez vous à Djamena.
Oui, je l'ai fait déjà. J'ai vu mon docteur avec et il m'a dit tout simplement que c'est la bonne qualité, c'est la meilleure, quoi.
Mais il n'a pas cette qualité-là, lui, à l'hôpital ?
Ils n'en ont pas.
Bon.
Oui.
Bon, en tout cas, vous avez l'explication, donc c'est une nature d'insuline qui serait différente. C'est bien ça, Mahamat.
Ok.
Bon, on vous souhaite une excellente journée à Djamena. On va prendre un autre auditeur tout de suite en ligne. Il est au Sénégal, à Dakar, et c'est Mamadou. Bonjour, Mamadou.
Oui, bonjour, madame.
Le docteur Dominique Huet vous écoute.
Voilà, donc j'aimerais savoir s'il existe des liens entre le diabète et la tension artérielle.
Vous, vous personnellement, vous êtes diabétique ?
Oui, type 1.
Ah, de type 1. Et vous êtes également concerné par la tension artérielle ou pas ?
Bah non, je voulais seulement savoir les liens qui existent entre ces deux maladies.
Docteur Dominique Huette.
Alors, dans le diabète de type 2, il y a une relation très étroite entre la fréquence de l'hypertension artérielle et la pathologie diabétique liée à ce qu'on appelle une mauvaise action de l'insuline, l'obésité, l'augmentation des graisses dans le sang. Et c'est ainsi que 80% des diabétiques de type 2 sont hypertendus. C'est une maladie cardiovasculaire générale, avec le diabète qui va être un accélérateur de tous ces processus. Dans le diabète de type 1, qui est une autre maladie, l'association n'est pas retrouvée avec l'hypertension artérielle, excepté lorsqu'on a une complication au niveau des reins, c'est-à-dire dans un diabète de type 1 très avancé, et dans ce cas-là, l'hypertension est liée à la maladie rénale. Mais encore une fois, l'association, elle se retrouve dans le diabète de type 2.
Donc, il ne vous concernerait pas, vous, personnellement, forcément, Mamadou.
D'accord.
On vous souhaite une excellente journée à vous à Dakar. On va partir pour la Guinée Conakry, la ville de Siguiri, précisément, où l'on retrouve Chekna. Bonjour Chekna.
Bonjour madame.
On vous écoute, le docteur Huette vous écoute.
Alors moi j'ai deux questions.
Mm-hmm.
L'une, ça a trait, je suis diabétique de type 2.
Mm-hmm.
Depuis 7 ans je crois, 17 ans je pense. Et je suis sous metformine 850. Je voudrais savoir si le médicament peut avoir des effets à long terme. Ça c'est ma première question.
D'accord.
Bien, alors c'est une question qu'on doit tous se poser lorsqu'on a une maladie chronique et que l'on doit prendre un médicament pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc votre question est tout à fait légitime. Alors on a pour le glucophage un confort de réponse qui est que le glucophage est commercialisé depuis 55 ans. Dans le monde.
Parce que ce médicament, la metformine, c'est une marque de ce produit,
tout
de cette
tout
molécule,
fait.
Le glucophage.
La metformine, voilà. Et donc, nous avons 55 ans de recul, et l'on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas d'effet néfaste avec ce médicament. Il y a simplement des effets indésirables, c'est tout à fait autre chose, qui vont apparaître très rapidement chez 10 à 15% des gens qui peuvent conduire à arrêter ce médicament pour une intolérance digestive sous forme de diarrhée, de troubles digestifs, et que dans ces cas-là, il faut arrêter ce médicament et passer à une autre classe. Mais pour répondre tout d'abord à votre première question, non, le glucophage ou la metformine 850 ne peut pas entraîner d'effets secondaires sur le long terme.
Alors, votre deuxième question, Chekna, et on va voir que le docteur Huette a donné une indication qui doit vous intéresser, qui doit beaucoup vous intéresser. Donc, on écoute cette deuxième question.
Voilà, j'ai fait le constat que j'ai souvent parfois des hyperglycémies.
Mm-hmm.
J'ai fait la remarque suivante, c'est que ça survient parfois avec je souffre de gastrite un peu, hein, avec des troubles fonctionnels intestinaux, pardon. Il m'arrive que les hyperglycémies arrivent au même moment que ces deux maladies. Je veux savoir s'il y a un rapport.
Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a premièrement, est-ce que votre gastrite ou vos gastrites, vos épisodes de gastrite et de troubles fonctionnels intestinaux, qu'on va parler souvent de diarrhée, sont liés à la prise de votre médicament, ou bien si vous faites des gastro-entérites d'origine virale ou bactérienne. Alors, le seul moyen d'avancer dans tout ça, c'est classiquement d'arrêter pendant 15 jours, 3 semaines votre médicament. Et si vous n'avez plus de troubles, vous ferez la relation avec la prise du médicament. Et dans ces cas-là, il faut revoir votre médecin pour qu'il vous propose une autre classe d'antidiabétiques. Maintenant, pour répondre à votre deuxième partie de question, qui est, je constate des glycémies qui s'élèvent lors de ces troubles. Il faut que vous sachiez que le diabète, et c'est une difficulté pour maintenir son taux de glycémie correct, est très susceptible de variations avec n'importe quelle pathologie. Dès que vous avez une petite virose, dès que vous avez une bronchite, dès que vous avez une diarrhée, que sais-je encore, toutes les pathologies vont entraîner une augmentation des glycémies pendant quelques jours. Donc, ce n'est pas surprenant du tout que, à l'occasion d'un épisode infectieux, vous ayez une augmentation de vos taux de glycémie. Tout ça devant rentrer dans l'ordre dès que vous guérissez de votre trouble.
Chekna, est-ce que vous aviez constaté justement que vos maux de ventre, hein, pour parler comme ça, sont arrivés quand vous avez commencé à prendre votre médicament ?
Bon, ils sont antérieurs à, antérieurs, à mon diabète.
Antérieurs, d'accord, très bien. Donc ça répond en partie à la question que vous posez le docteur Dominique Huette. Voilà, bah, écoutez, très bien. Très bonne journée à vous en Guinée-Conakry. On va retourner tout de suite au Tchad, à N'Djamena, où l'on retrouve Samsia. Samsia, bonjour.
Bonjour, docteur.
Samsia, bonjour. Ah, on a un petit écho sur la ligne, hein. On entend ma voix derrière qui répète ce que je dis. Samsia, on écoute votre question, le docteur Huette vous écoute.
Bien, on écoute votre question, le docteur
Lévy. Oui, bonjour, docteur Dominique.
Bonjour.
Bonjour, docteur Dominique. Alors, moi, j'ai constaté un temps que mon taux de sucre est un peu monté, glycémine, ce que vous appelez le plus souvent. Alors, quand je suis allé faire un examen pour la première fois, j'étais à 2,60 mg. Pour la deuxième fois, je suis encore allé faire un autre examen, j'étais à 2,25. Alors, entre-temps, j'avais tout complètement arrêté avec tout ce qui est sucré. Alors, après encore un dernier examen, je me retrouve avec 0,95. Et là, le docteur m'avait prescrit un médicament du nom glucophage. Alors c'est avec ces médicaments que je suis en train de prendre. Alors ma question est de savoir, à chaque fois que je ne prends pas de glucophage, je me retrouve avec un taux un peu monté. Et quand je ne prends pas le médicament, j'ai des problèmes de santé. Est-ce que je dois continuer à prendre le glucophage à vie, ou soit qu'est-ce que je dois faire?
Samsia, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que quand votre taux de glucose, hein, si je ne dis pas trop de bêtises, redescend, vous interrogez à ce moment-là pour savoir s'il ne faut pas arrêter le traitement?
Oui, c'est ça.
Bon, alors le docteur Huette va vous répondre.
Alors, tout d'abord, vous avez constaté à plusieurs reprises que votre taux de sucre était supérieur à 2 grammes, ce qui vous classe, entre guillemets, dans les sujets diabétiques. Dès l'instant où on est diabétique, nous devons mettre en route un traitement. Mais un traitement ne veut pas dire forcément un traitement médicamenteux. Et vous avez parfaitement bien dit qu'à un moment donné, vous avez fait très attention, vous avez supprimé le sucre, peut-être avez-vous fait un petit peu plus d'activité physique, et cela peut faire descendre la glycémie et la ramener à un taux presque normal. Vous avez parlé d'un 0,95 g, quelque chose comme ça. Donc ça prouve que les traitements non médicamenteux sont efficaces et nécessaires. Parfois, cela ne suffit pas et dans ces cas-là, nous sommes obligés de prendre des médicaments qui font baisser la glycémie en complément de nos règles d'hygiène de vie. Et dans ce cas-là, le premier médicament à proposer est bien entendu la metformine que vous prenez, à condition que vous la tolériez. Mais ce qui est important dans votre question, c'est d'avoir noté vous-même que lorsque vous aviez fait très attention, votre taux de sucre avait descendu avant toute prise médicamenteuse. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, il faut continuer vos règles d'hygiène de vie, alimentaire, un peu de marche à pied. Et puis, si votre diabète est bien équilibré, cela peut suffire. Si votre diabète, c'est-à-dire les glycémies, remontent, il faut adjoindre un médicament avec.
Voilà Samsia pour ces conseils du docteur Huette. On vous souhaite une très très bonne journée à N'Djamena. On va poursuivre en partant pour le Bénin, où nous appelle Nandou. Elle est à Cotonou. Bonjour Nandou.
Oui, alors, bonjour.
On vous écoute, le docteur Huet vous écoute.
Bonjour.
Oui, bonjour docteur. Je suis diabétique de type 2 et en 5, sous insuline. Donc, quand je prends le pot avant de manger, c'est à 0, 95, 90. Mais après le manger, ça augmente jusqu'à 1, 80. Alors que j'ai déjà fait l'injection de l'insuline. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois manger pour ne pas faire augmenter le taux aussi élevé comme ça.
Question de Nandou, est-ce qu'il y a des choses particulières, d'autant plus quand on attend un bébé ? Des conseils spécifiques pour les femmes enceintes qui souffrent de diabète ?
Alors, le diabétique, ou la diabétique plutôt, pardon, de type 2 qui est enceinte, va avoir besoin d'un contrôle beaucoup plus rigoureux du taux de sucre pendant cette grossesse. Et comme il est communément reconnu que l'on ne peut pas, pour des raisons de protection et de précaution, prendre les comprimés, on met les patientes sous insuline avec des objectifs très stricts pour éviter que le bébé grossisse trop pendant la grossesse. L'inconvénient d'avoir un gros bébé, c'est de pouvoir le mettre au monde le plus facilement possible. Et donc, on a des objectifs beaucoup plus rigoureux, c'est-à-dire que il faut qu'on soit aux environs de 0,80 g, 0,90 g à jeun, ce que vous êtes, d'après votre parole, et deuxièmement, aux environs d'un gramme 25 après les repas. Alors si vos glycémies, votre taux de sucre après les repas est plus élevé, c'est ce que je crois comprendre dans votre question, eh bien il y a soit, ou les deux, un problème d'apport alimentaire trop important encore, ou bien la dose d'insuline que vous faites juste avant le repas pour couvrir ce repas qui n'est pas suffisante. Et que dans ces cas-là, il faut que vous augmentiez votre dose d'insuline avant le repas pour constater après le repas des glycémies. L'objectif, je vous ai dit, c'est 1,25 g.
Mais pour ça, il faut aller voir un médecin qui va prescrire les doses qui correspondent exactement aux besoins. Comment ça se passe ?
Alors, habituellement, on voit le médecin avant et puis il vous apprend, le médecin ou une infirmière, justement, à régler les doses en fonction des résultats. Et donc, on voit que sa dose pour l'insuline de base à jeun est bonne, mais que ses doses d'insuline qui sont faites avant les repas sont encore insuffisamment importantes. Donc moi, le conseil, c'est de voir, soit vous avez l'habitude de gérer totalement les doses vous-même et je vous conseille d'augmenter, soit d'en reparler à votre médecin. Mais avec l'insuline, il n'y a aucune fatalité. On doit, en augmentant la dose, obtenir des glycémies normales. Et dans ces cas-là, vous aurez une grossesse qui se déroulera normalement.
Parce que ce que nous dit aussi Nandou, c'est qu'elle a faim en ce moment. Et qu'elle contrôle son insuline, elle contrôle son taux de glucose, mais elle a faim. Donc ce qu'elle voudrait, c'est aussi des conseils pour pouvoir manger suffisamment, pour être bien à l'aise, pour attendre ce bébé.
Alors, contre la faim, il y a deux choses à faire. Il y a premièrement, c'est rajouter des collations. On rajoute des collations à 10h le matin, à 16h, souvent sous forme, ça peut être d'un produit laitier, parce qu'on a besoin de calcium pour notre petit bébé. Et ou bien un petit peu de pain avec un peu de matière grasse dessus, parce que dans ces cas-là, ça fait pas trop monter le sucre. Et puis, il faut prendre des aliments qui vont vous remplir, comme les légumes verts. Ça fera pas monter votre glycémie et ça va remplir les crudités, ces choses-là.
Voilà, Nandou, pour ces conseils. On vous souhaite une très bonne journée, très bonne continuation à Cotonou. On va prendre un dernier auditeur, c'est Yaya qui est en ligne d'Abidjan. Bonjour Yaya.
Bonjour madame.
On vous écoute Yaya.
Oui, je suis diabétique depuis bientôt 15 ans. J'ai suivi un infarctus parce qu'à l'époque je fumais beaucoup. Et le médecin m'a conseillé de tout faire pour ne pas déséquilibrer ma glycémie. Et ces derniers temps, ma glycémie était très déséquilibrée. Et le médecin m'a mis sous insuline, Novo Nord. Et j'estime que les doses sont un peu fortes parce que je prends des 36 unités le matin et 32 le soir. Je vais demander au docteur si la trop grosse prise d'unités d'insuline n'a pas de conséquences.
Vous inquiétez des effets secondaires de cette insuline pour votre santé ?
Oui, surtout la dose qu'on m'a prescrite.
Vous avez peur que la dose soit trop importante, docteur Dominique Huette. Cette dose, elle a été prescrite par un médecin, de toute façon.
Exactement, oui. Elle m'a dit que non, c'est en fonction de mon poids qu'elle m'a prescrit la dose. Mais bon, comme j'estime que c'est un peu fort, je voudrais savoir s'il n'y a pas de conséquences.
Alors, la première chose, c'est qu'il faut, comme votre médecin vous a dit, que votre diabète soit bien équilibré à la suite de cet accident cardiovasculaire, pour en particulier éviter un risque de rechute avec un nouvel accident cardiovasculaire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'insuline en elle-même n'est pas toxique. Vis-à-vis des doses, les doses sont très variables d'un sujet à l'autre en fonction de son poids, de son exercice physique. Et on parle d'excès de doses lorsque les glycémies descendent trop bas, c'est-à-dire lorsque vous êtes pris de ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est-à-dire la glycémie constatée en dessous de 0,60 avec des manifestations, des suées, une tachycardie, une faim extrême, voire un malaise. Dans ce cas-là, cela veut dire que votre dose d'insuline est trop forte. Mais sinon, si vos glycémies sont bonnes avec l'absence d'hypoglycémie ressentie par vous-même, d'ailleurs 30-60 unités par jour n'est pas une dose très importante. Nous avons des patients chez qui on monte à 200, 300, voire 500 unités par jour. Donc ne vous inquiétez pas sur la dose. Le problème est plus à regarder si vos glycémies sont bonnes.
Voilà les résultats. Yaya, très bonne journée à vous à Abidjan. Avant de partir, donner la parole à un de vos confrères du Burkina, j'ai deux petites questions Facebook que j'ai retenues, qui sont très intéressantes parce qu'elles reviennent assez souvent, notamment sur le miel. Le miel naturel est-il mauvais ou bon pour le diabète? Question de Benjamin de RDC.
Alors on va répondre très rapidement. Le miel fait partie des produits sucrés. Donc est-ce que le sucre est bon pour le diabète? Le sucre est mauvais pour le diabète lorsqu'il est pris en grande quantité. Vous savez que maintenant la diététique, et on veut plus parler de régime diabétique, on veut parler de diététique avec un équilibre alimentaire. On n'interdit rien, mais tous les aliments qui sont susceptibles de faire monter beaucoup la glycémie, tel le sucre, doivent être pris avec modération. C'est-à-dire que si vous souhaitez prendre une cuillère à café de miel le matin, c'est tout à fait toléré. Si vous me dites que vous allez prendre un demi-pot de miel par jour,
non,
la réponse sera le miel est mauvais.
C'est pour les ours. Alors, autre question, c'est Vital de Bukavu qui nous demande, il nous donne son groupe sanguin, mais sa question c'est, si je suis diabétique, si je suis traité, est-ce que je peux donner mon sang à une personne saine?
Alors, je connais pas la réglementation des centres de transfusion dans votre pays. Néanmoins, en France, lorsque nous prenons des traitements, eh bien, hélas, on ne peut pas faire don de son sang.
Parce qu'il peut rester des traces de ce produit chimique dans le sang.
Des produits dans le sang.
Tout simplement. C'est une question finalement assez logique. Question que je vous pose moi, hein, Caroline de Paris. Pourquoi certains traitements sont-ils injectés et d'autres administrés par voie orale quand on a du diabète?
Alors peut-être que cette question n'aura plus lieu d'être dans quelques années, puisque nous avons classiquement deux types de médicaments, des antidiabétiques, comme vous avez dit, par voie orale, et par voie injectable. Les médicaments par voie injectable sont liés au fait que ce sont des hormones, comme l'insuline, que vous propose, et que ces hormones, à l'heure actuelle, sont détruites lorsqu'elles arrivent dans l'estomac. Mmh. Et que dans ces cas-là, on peut pas les donner par voie orale. Alors ça fait 20 ans qu'on tourne autour, on est en train progressivement de s'améliorer, on va avoir bientôt une insuline qui pourra être absorbée par voie nasale. Mmh. Et puis, bientôt également, des comprimés qui seront résistants à l'action des enzymes de l'estomac et qui libéreront l'insuline un peu plus en amont.
Donc la recherche y travaille.
Tout à fait.
Alors on part tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Joseph Drabeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue, chef du service de médecine interne du CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Professeur Drabo, votre hôpital aujourd'hui est une structure de référence nationale pour la prise en charge des patients diabétiques. Est-ce que vous disposez des chiffres de la prévalence du diabète au Burkina?
Tout à fait, peut-être pas les chiffres de 2019, mais la dernière enquête qui date de 2013-2014 a trouvé une prévalence de 4,9% de diabétiques dans la population de 25 à 64 ans.
4,9%. Et comment ça se passe quand vous prescrivez des antidiabétiques à vos patients, professeur Drabo? Comment ça se passe du côté de la prise en charge?
Oui, Burkinabé, qu'ils soient diabétiques ou pas, en général, payent leurs médicaments de leur poche. Donc, la prescription des antidiabétiques est sujette à des problèmes économiques. Et donc, tous les patients ne sont pas toujours en mesure d'acheter les médicaments. Mais on peut assurer quand même qu'il n'y a pas de rupture en approvisionnement en médicaments antidiabétiques. Et les médicaments de base sont disponibles dans les pharmacies, dans les officines. Sauf qu'effectivement, le coût fait que l'accès à ces traitements est souvent difficile pour les patients.
Est-ce que la population est plutôt bien informée sur cette maladie, professeur Drabo?
De plus en plus, parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, d'information dans les médias, donc à la radio, à la télévision. Mais quand on va plus loin en milieu rural, les populations sont moins informées sur cette maladie qui semble être une maladie mystérieuse. Comme mon prédécesseur l'a dit, c'est une maladie silencieuse. Il faut la diagnostiquer par une prise de sang. Et c'est pas toujours facile pour les populations rurales, souvent analphabètes, de comprendre de quoi il s'agit. Mais de plus en plus, notamment en ville, les gens sont informés de la maladie. Et vu la prévalence élevée, il y a de plus en plus de gens qui ont un parent, un ami, une connaissance qui souffrent du diabète sucré. Donc les gens sont de plus en plus sensibilisés à ce problème.
Malgré tout, la prise en charge de façon précoce, est-ce que c'est encore quelque chose de fréquent ou la plupart des patients que vous recevez en consultation arrivent à un stade assez avancé avec donc déjà des complications, professeur Drabo?
Tout à fait. C'est ce qui se constate le plus souvent donc en Afrique où le dépistage n'est pas fait tôt, l'accès aux soins étant souvent difficile, les gens consultent lorsqu'ils ont des symptômes. Et en diabétologie, lorsque le patient consulte des symptômes, c'est souvent devant des complications. Et nous avons plutôt des complications aiguës, donc des comas, des complications aiguës, mais aussi des complications chroniques, notamment des problèmes d'infection du pied et de maladies infectieuses intercurrentes et de plus en plus de maladies cardiovasculaires, si bien que la prise en charge devient plus compliquée parce qu'associant une prise en charge plus complexe.
Alors, on l'a dit depuis le début de l'émission, hein, les conseils en matière de prévention, c'est absolument essentiel. Par rapport aux habitudes de vie propres au Burkina Faso, professeur Joseph Drabo, est-ce que vous auriez des conseils, justement, en termes de bonnes et de mauvaises habitudes à suivre?
Oui, les mauvaises habitudes sont surtout des mauvaises habitudes liées donc à la sédentarité. Et ce problème de sédentarité se voit de plus en plus en milieu urbain, où les gens, bien sûr, compte tenu de l'amélioration des conditions de vie et parfois aussi des villes qui n'offrent pas des possibilités d'activité physique, les gens ont tendance à être sédentaires. Et avec aussi les modifications alimentaires, les gens ont accès à une alimentation un peu plus riche en graisse, en sucre. Donc l'obésité et le surpoids apparaissent, si bien que ce sont des facteurs qui font le lit des maladies cardiovasculaires et du diabète sucré. Donc, il faut changer cette façon de faire, abandonner donc la sédentarité, aller beaucoup plus à pied, à vélo, faire du sport, faire de l'activité physique. Et ceci est absolument important et réduire l'apport en sucre et en graisse.
Merci beaucoup.
La deuxième chose, c'est qu'il faut que les gens apprennent à consulter pour se faire dépister et se prendre en charge précocement et efficacement dans les centres de santé.
Avant de vous saluer, docteur Dominique Huette voulait intervenir.
Oui, je voulais aller complètement dans le sens de mon collègue. La progression de cette épidémie, entre guillemets, est liée au fait de l'urbanisation. Lorsqu'on sait que en 2050, 80% de la population sera urbaine. À titre d'exemple, moi, au Sénégal oriental, j'ai fait avec des populations identiques, donc génétiquement un capital identique, on voit que quand on est en région rurale, où les gens vont chercher l'eau au puits, exercice physique, et ont une alimentation essentiellement des protéines végétales, eh bien, j'étais tombé chez les gens de plus de 50 ans, au dépistage, à moins de 1% de diabète. Et lorsqu'on prend la même population, en périurbain ou urbain, eh bien là, on tombe à 5%.
Donc on voit l'impact vraiment en chiffres, cela se note en chiffres. Merci beaucoup à vous et bonne journée, professeur Joseph Drabeau à Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Docteur Dominique Huette, on va conclure cette émission. On a parlé tout à l'heure de l'accès aux traitements avec le Burkina, donc les patients qui doivent payer ces traitements, c'est un obstacle. Il y a aussi le problème de l'accès à certaines thérapeutiques plus nouvelles, des produits plus innovants pour soigner le diabète. C'est aussi un véritable problème, notamment pour l'Afrique.
Alors, c'est à mon avis un problème mineur, parce qu'avec la pharmacopée, j'allais dire actuel ou des dix dernières années,
on a des bonnes vieilles molécules qui suffisent.
On peut parfaitement bien équilibrer les gens avec des médicaments peu onéreux. Le problème ne vient pas trop de là. Le problème, il vient d'abord de dépister les gens. Deuxièmement, le problème vient d'une éducation des gens. Lorsqu'on sait que dans les pays européens, 50% des gens ne prennent pas leur traitement, alors qu'ils sont pris en charge totalement. Donc vous voyez qu'en plus va se rajouter le problème du coût du médicament, même s'il est peu cher, et surtout la notion d'une maladie chronique, alors que les gens sont habitués à se soigner pour des maladies aiguës. Et donc la difficulté, c'est surtout de faire changer les mentalités, c'est le rôle de l'éducation dite thérapeutique.
Apprendre aux gens, une fois qu'ils sont dépistés, à bien se soigner. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Dominique Huette. Je rappelle que vous êtes chef du service de diabétologie et d'endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph à Paris, donc membre du conseil d'administration de l'association CAICEDRA, ONG qui travaille au Sénégal oriental. Toujours au sujet du diabète, le congrès de la société francophone de diabète, eh bien c'est pour bientôt, ce sera la 45e édition, 26-29 mars prochain. Ça va se passer à Marseille, au niveau international. Il s'agit du troisième événement en diabétologie. Vous retrouverez bien sûr le lien du site internet de ce congrès de Marseille sur notre site à nous, le site de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Art Convergence, une association qui offre une visibilité à des personnes qui souffrent de maladies psychiques, qui développent des projets artistiques, faire partager le talent de celles et de ceux qui créent, qui imaginent, qui s'expriment, tout en étant donc concernés par la maladie mentale, avec notamment des créations audiovisuelles. Pour en parler avec nous, Laurence Dupin, bonjour.
Bonjour, merci d'en parler si bien, de vous recevoir aujourd'hui.
Vous êtes présidente de l'association, cette association Art Convergence, prix vidéo, il a été remis il y a quelques semaines de cela, ce sont des formats courts, des créations qui offrent une vision de la maladie. J'en ai visionné quelques-uns, vision véritablement de l'intérieur à la première personne.
Pas toujours, parce qu'en fait, le prix vidéo était ouvert à tous. Mais bon, c'est vrai que très souvent, ça a été le cas et ça fait partie des vidéos qui ont été retenues par le jury pour la plupart du temps.
Alors justement, ces prix qui ont été récompensés, primés, et puis vous avez reçu des films très différents, issus de nombreux pays.
Oui, on a eu des films. On a reçu en fait cette année plus de 150 vidéos qui correspondaient au thème qu'on avait développé dans l'appel à projet. Donc l'idée, c'était que tout le monde s'empare du sujet. Il faut bien vivre avec une maladie psychique. Format très court et cet appel à projet donc a été diffusé pendant plusieurs mois dans toute la francophonie et on a reçu effectivement quelques vidéos qui provenaient du Sénégal mais qui n'ont pas été parce que c'est le jury qui décidait.
Laurence Dupin, on va tout de suite entendre l'extrait d'une de ces productions lauréates. Elle est signée par Cécile Poirier. On en écoute la conclusion. Son titre, c'est « Saperlipopette ».
Je n'écoute plus personne. J'ai tout le temps envie de faire la fête. De m'oublier. De me défoncer la gueule. Je dors plus. Tout va
J'avance tranquillement. Je me sens apaisée et soulagée. On m'a ôté un poids. J'ai encore besoin de chimie, mais je m'en accommode. Tout est à faire et tout est faisable. Je profite, je savoure et j'apprends à vivre comme ça.
J'apprends à vivre comme ça, c'est pour cela que je disais tout à l'heure à la première personne, Laurence Dupin, les images saccadées, surexposées, répétées, avant, l'accalmie, le ciel, le fleuve, les amis, la danse. Quelles ont été les réactions des membres du jury ?
Ils ont été très étonnés par la qualité des vidéos qu'ils ont reçues, et c'est vrai que celle-là les a beaucoup émus, beaucoup touchés, parce que dans les membres du jury, il y avait des professionnels du cinéma, il y avait des professionnels de la psychiatrie, donc des gens qui, comme Catherine Joussel, qui sont habitués à recevoir ce genre de personnes, et tous ont été vraiment très très touchés par la réalisation, par ce qui était fait, et surtout par le message d'espoir en fait qu'on entend à la fin.
C'est vrai que des fois, quand on travaille sur des sujets comme par exemple les personnes bipolaires, on a du mal à conceptualiser la maladie, et avec là, en quelques minutes, en quelques images, on a l'impression de rentrer dedans dans une description très explicite, Laurence Dupin.
Bah oui, c'est ce que je trouve aussi, parce que c'est vrai que c'est d'ailleurs tout l'objet du prix, c'est d'essayer de donner d'autres représentations au public, c'est que les gens puissent se rendre compte que on peut avoir des gens autour de soi qui vivent ce genre de maladie, qui ne le disent pas toujours, qui arrivent à travailler, qui arrivent à faire un tas de choses, et c'est l'objectif de nos prix d'ailleurs, et de tout ce qu'on fait.
Et de la part de ceux qui créent, de celles et de ceux qui créent, Laurence Dupin, c'est une façon aussi de sortir de la consultation et du cercle familial, un mode d'expression, il y a eu aussi des retours de ce côté-là ?
Oui, on en a eu beaucoup, parce que c'est ce que je vous disais au début, c'est que le prix vidéo, il est ouvert à tous. Donc l'intérêt, justement, c'est que les gens qui s'emparent de ce prix soient potentiellement malades ou pas. On ne sait pas d'ailleurs, en fait, quand ils s'inscrivent et quand ils nous envoient leurs vidéos. Et la plupart du temps, on se rend compte que les très bonnes vidéos sont faites avec des gens directement concernés, qui peuvent les avoir faites avec un réalisateur connu ou un étudiant dans une école d'audiovisuel ou de journalisme ou autre, ce qui a été le cas aussi. Et ça nous permet d'avoir des visions qui sont très différentes et qui peuvent se croiser et qui peuvent nous permettre de comprendre aussi beaucoup mieux ce que peut être la maladie psychique vécue de l'intérieur.
Avec une dimension proprement artistique, pas forcément de vocation thérapeutique.
Non, a priori non. Mais c'est pas toujours artistique, parce qu'il y a aussi eu des vidéos qui étaient faites sur le mode du reportage. On a eu des manières d'aborder ce sujet qui étaient très diverses, et c'est tout l'intérêt en fait de notre prix. Je crois que c'est le format très court, donc tout le monde peut regarder parce qu'elles sont toutes partageables et diffusables sur Internet. Et aussi le fait que c'était des manière très différente d'aborder la schizophrénie aussi, les troubles bipolaires, enfin toutes ces maladies psychiques qui ont des vilains mots que les gens n'aiment pas entendre, et surtout quand ils en sont directement atteints.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Dupin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Art Convergence, et la troisième édition de ce prix Art Vidéo est en préparation, prix qui sera donc remis à l'automne prochain. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Lundi, c'est Chantal Leroux que vous retrouvez derrière ce micro. Émission consacrée à l'asthme chez l'enfant. Bien sûr, on attend vos témoignages, vos questions. 33 1 84 22 75 75. À lundi pour Priorité Santé.
C'est Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.